Over Troubled Waters. Évidemment, ça fait partie des sujets d'aujourd'hui. Exceptionnellement, nous allons aborder deux sujets avec Michel Pinard, que j'accueille tout de suite. Salut Mike.
Bonjour Rock.
Michel, il y a deux sujets incontournables aujourd'hui. C'est certain là, qu'au lendemain de la victoire de Tiger Woods au Masters, quelque chose qui n'était pas prévu, on va revenir sur la force de caractère de cet homme qui s'est relevé là, des cendres.
Oui.
Donc, je pense que c'est à propos d'en parler aujourd'hui, mais on ne peut pas passer sous silence un événement d'il y a deux ans, 2017, qui risque de se répéter. Et même si ça ne risque pas de se répéter, je parle des inondations, les avertissements publics que l'on connaît maintenant doivent certainement raviver une crainte, des émotions, des souvenirs douloureux des gens qui ont passé à travers les inondations. On va aborder ce sujet-là pour commencer. Le choc post-traumatique est presque réel dans le sens qu'on revit ça ou on pourrait revivre ça. Comment les gens font pour vivre à travers ça?
C'est pas facile. Hein? Il y a encore des gens, Rock, qui pensent encore les blessures de 2017.
Ouais.
C'est évident qu'on parlait plus tôt avec ton recherchiste, Olivier, qui me faisait part que dans les médias sociaux, déjà, ça s'enflamme puis il y a comme un vent de panique. On anticipe le pire. Quand on a connu le pire en 2017, c'est sûr que l'imagination puis les scénarios qu'on va créer sont les pires. Et ce qu'on prévoit, c'est pas commode là, au cours du week-end.
C'est ça.
Alors, comment se préparer à ça? C'est certain qu'il y a des gens qui ont consulté, qui sont allés chercher de l'aide. Quand tu as un choc post-traumatique, il faut se faire aider. Et ça amène aussi un paquet de réalisations. Il y a les gens, je suis sûr et certain, que déjà, on se prépare pour ce week-end-ci. Pour éviter d'être inondé et de s'aider là, au niveau matériel. Mais il y a quand même un danger, c'est au niveau psychologique, de se faire des scénarios, d'anticiper le pire, alors que très souvent, quand on fait un scénario, bien, la plupart du temps, ça n'arrive pas. C'est toujours une autre histoire qui s'en vient. Et il faut être mentalement quand même souple et disponible à voir bon, le pire, mais être capable d'aller rechercher à l'intérieur de nous des ressources personnelles pour faire face à l'inévitable. Les gens sont toujours assommés de voir la force de la nature.
Mm-hmm.
On l'a vécu avec l'ouragan, la tornade qu'on a connue l'année passée, 2017. Les éléments, le feu cette semaine avec ce qui s'est passé à Paris, ça fascine et ça fait peur parce que c'est plus fort que nous. Alors, on ne peut pas résister physiquement et psychologiquement à ce que la nature nous propose, mais par contre, on a eu, avec l'expérience de 2017, quand même l'expérience de peut-être pouvoir au moins gérer psychologiquement au niveau de la famille, sur le plan humain, d'être plus adapté à une situation difficile comme celle-là.
Ce à quoi je pense, Michel, quand on regarde les événements s'en venir, je pense aux gens qui ont vécu là, les inondations, qui ont été inondés.
Oui.
Et que là, ils sont devant une situation, aujourd'hui, demain, bon, on recommence-tu? On recommence-tu à bâtir des digues de sacs de sable? Est-ce que je m'en vais louer des génératrices? Est-ce que je m'en vais acheter de façon préventive de l'essence? Est-ce que je monte tous mes meubles sur des boîtes? Et la prochaine question, c'est que les gens qui ont vécu ces drames-là il y a deux ans, au lieu d'y puiser l'énergie nécessaire pour tout faire ça, est-ce que c'est pas l'effet inverse que le choc post-traumatique, les affligent, puis que ça dit « Non, j'ai pas la force. »
On baisse les bras.
Ouais. Ça me donne rien. J'ai tout fait ça il y a deux ans, puis garde ce qui m'est arrivé. Au diable. Advienne que pourra. Est-ce que c'est possible que ça ait cet effet-là plutôt que de la résilience?
Bien sûr. Oui, absolument. C'est possible qu'on abandonne. La peur, la crainte paralyse. Alors, on peut être paralysé par cette crainte-là. Très souvent, par contre, l'entourage va venir compenser cette espèce d'immobilisme là, psychologique dû à la crainte et à la peur. Mais quand on est seul au combat, c'est évident que c'est difficile là, de pouvoir affronter l'épreuve. Là, quand on a eu un choc post-traumatique, là, je vais être clair là-dessus.
Parce que le choc post-traumatique dont on parle,
oui.
pas simplement du monde qui ont vécu une guerre en Afghanistan.
Là,
L'inondation est un trauma, là.
Absolument, absolument. Pour plusieurs, n'importe quoi, dans le fond, qui sort de l'ordinaire, qui t'atteint profondément, peut être un choc post-traumatique. Alors, c'est sûr que quand tu l'as vécu, t'oublies pas. Tu peux t'en remettre et le quotidien, tranquillement, se réinstalle et tu te refais une confiance. Mais dès qu'on a une alerte météo comme on a là,
ouais,
alors ça vient susciter un paquet de souvenirs, hein, des flashbacks.
Ouais.
Et il y a des gens qui perdent le sommeil là-dessus, qui développent des troubles anxieux, du stress. Et c'est difficile, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est facile.
Est-ce que Michel, quelqu'un... Je vais faire attention à comment je vais dire ça.
Oui.
Quelqu'un qui a vécu 2017 puis qui a rebâti.
Oui.
Bon, ça a bien été la reconstruction. Ils ont fait le bon ménage. Ils ont été indemnisés à la juste valeur. Ils ont été capables de rebâtir. C'est même peut-être plus cute que c'était. On est résilient.
Oui.
Ça, c'est le volet matériel.
Oui.
Est-ce que les gens qui ont vraiment été capables d'assimiler la détresse dans laquelle ils étaient, puis quelqu'un qui a fait un cheminement, est-ce qu'ils vont être mieux préparés cette fois-ci que quelqu'un qui a simplement balayé ça sous le tapis au niveau émotionnel?
Oui, ils vont être plus résilients. Ils vont être plus en mesure, je pense, de faire face à cause de l'expérience. Je parle des gens qui n'ont pas de choc post-traumatique. Alors, tu l'as vu venir. Maintenant, tu as pu te réparer un peu les dommages, mais psychologiquement, tu sais maintenant à quoi t'attendre. Ce n'est pas de l'imprévu, tu l'as vécu. Alors, si tu es encore dans la même résidence, le même local, alors c'est sûr et certain que tu te prépares déjà. Il y a des gens qui sont déjà en alerte aujourd'hui. Là, alors, il y a comme des chantiers déjà.
Il y en a qui ont été capables de grandir de cette expérience quand même.
Absolument. Et rebondir, oui.
En parlant de grandir d'une expérience, je veux qu'on parle du Masters. Contre toute attente, Tiger Woods est revenu de très loin. D'ailleurs, Michel, avant de t'entendre, je veux qu'on écoute. Quand on dit partir de très loin, on va remonter au jour où il était arrêté. Richard a sorti l'extrait sonore et ça va commencer de là, dans le fond, et la descente aux enfers, mais un peu comme une balle de baseball. Quand le lanceur lance au marbre, pour frapper un coup de circuit, Michel, faut que le frappeur amène la vitesse à zéro de cette balle et ensuite la propage, la propulse à l'extérieur du parc.
Oui.
La balle à 90 000 à l'heure, il faut qu'elle arrive à un point mort, zéro, pour repartir. Tiger a frappé le zéro et a frappé un coup de circuit. On écoute ça ensemble.
As police arrived on the scene, they activated their cameras and began recording, capturing 98 minutes of video. In the video, you see 41-year-old Tiger Woods unsteady on his feet, slurring his words. All of this is now evidence in the criminal case for a judge, but also because it's Tiger Woods in the court of public opinion.
I don't want you to move your head, okay? I want you to keep your head still, your arms out by your side, and your feet together, okay? Following the red light with your eyes and your eyes only, okay? Do you understand the instructions as I read them to you?
Follow the line.
Okay.
What goes up must come down.
Face this way. Face this way again. Okay? Put your left foot on the line, okay?
Comeback complete. The fifth green jacket for Tiger Woods.
You're simply the best. Better than all the rest.
Ouais.
Wow.
Michel, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? On a regardé un bout du Masters ensemble samedi.
Oui.
Dimanche matin, on s'est levé, on a regardé ça. À un moment donné, ils étaient 5 ex-aequo. Tiger a joué du bon golf le dimanche matin, mais pas du golf extraordinaire, assez pour gagner. Des nerfs d'acier, devait faire un 5 sur le 18, a fait un 5, gardé un pote à peu près un pied et demi à la fin. Un pied et demi pour un comeback comme ça, c'est long en tabarouette. Comment un gars qui était au sommet, qui a eu des problèmes de santé majeurs, qui a eu des opérations dans le dos, des fusions aux vertèbres, qui a eu des opérations dans le genou, on s'entend qu'il ne joue pas aux échecs, là. Comment ce gars-là qui a des troubles de santé, a des troubles avec la justice, a des troubles matrimoniaux, a des troubles avec l'opinion publique, a perdu des commanditaires, n'était plus capable même de faire les cotes sur les grands tournois, comment peut-il renaître de ses cendres?
Bonjour, Rock. Wow, hein? Quel sujet.
Hey.
Et c'est le fun parce qu'on fait un lien avec ce qu'on a parlé la semaine passée. Détermination, la réponse. Détermination. 11 ans plus tard, après ses déboires, Tiger gagne un majeur. Son 15e, il est à la quête du record de Jack Nicklaus, qui en a 18. Il en reste 3 à gagner. C'était incroyable de voir la concentration et l'espèce de bulle dans laquelle il était tout le long du week-end, plus que d'habitude. Et c'est comme si on pouvait sentir que cette fin-là arrivait. Et Tiger était déterminé plus que jamais à remporter ce tournoi-là. Et je pense qu'il portait ça à l'intérieur de lui. Élément de motivation, et c'était beau à voir au 18e, quand son fils est allé se lancer dans ses bras. Et Tiger, à la fin, qui dit, ben moi, ici, en 97, j'ai gagné mon premier tournoi. Mon père m'a accueilli dans ses bras, son père qui est décédé depuis, et qui maintenant, ben la vie, c'est un cycle. Hein? Et là, c'est son fils, il dit, je suis le père de 2 enfants maintenant, les rôles sont renversés. Et il voulait montrer à ses enfants et à son fils comment c'était possible, malgré les déboires, les difficultés. Ils ont vu leur père malade et opéré. Ça a été très difficile pour Tiger. Et il voulait leur montrer qu'à l'envers de la médaille, bien, il y a aussi des joies possibles. Alors, le fait pour lui de gagner, c'était évidemment de prouver qu'on peut se relever quand on frappe le fond du baril. Et c'est incroyable à l'époque, en 2009, quand les problèmes conjugaux de Tiger ont été dévoilés sur la planète entière. Il y a beaucoup de gens qui l'ont condamné, qui l'ont jugé. Qui ont jugé soit le comportement ou l'attitude qu'il y avait. Certaines personnes ont même jugé le bonhomme. Il y a plusieurs commanditaires qui se sont dissociés de Tiger Woods. On l'a condamné. Et de voir la foule et l'impact que ça a eu mondialement, de voir un homme se relever et gagner, c'est comme si tout le monde voulait avoir, Rock, une partie de Tiger Woods, parce que c'est très inspirant. Tout le monde, au quotidien, dans notre vie, on a des défis, on a des échecs, on a des problèmes de santé, des problèmes conjugaux. On a des défis personnels et plusieurs personnes ont frappé le fond. Et de voir un homme bon, aussi connu que Tiger Woods l'avoir vécu aux yeux de tout le monde et rebondir de façon magistrale au cours du dernier week-end, je pense qu'il y a de quoi inspirer n'importe qui, que tu sois amateur de golf ou pas.
Puis pour toi, son secret de sa résilience, c'est la détermination?
Oui.
C'est ça que tu dirais?
Il était déterminé, lui. Il n'a pas perdu son talent, mais il a perdu sa santé. Alors, il a été très, très conciliant par rapport au conseil qu'il y a eu au niveau médical. Il a fallu qu'il refasse son élan au complet. Il a eu à se retirer pendant certains tournois dans les dernières années parce que ça ne fonctionnait pas. Tiger, il a eu 4 opérations majeures au dos, 4 opérations majeures au genou gauche. Il avait de la difficulté à marcher, Rock. C'était pas évident. Et maintenant, il est capable de revenir dans un tournoi majeur, de gagner et de sentir le support du public aussi. Ça a dû l'aider énormément. Mais je pense qu'il avait une grande motivation par rapport à sa famille et de pouvoir montrer à ses enfants que c'était possible de rebondir. Et il n'y a pas de doute que maintenant, il est à l'attaque du record de Jack Nicklaus. Il doit gagner 3 autres majeurs. Il y en a 2 qui s'en viennent sur des terrains, les 2 prochains, que Tiger performe très, très bien habituellement. C'est ce qu'on a dit. Alors, ça va être très intéressant de le suivre et surtout très inspirant pour plusieurs.
On peut-tu imaginer la force du mental de ce gars-là? Si c'était possible de mesurer ça, comme dans une chaudière, tu sais, de 1 litre, 2 litres, puis tu mesures la dureté du mental, prendre l'expression consacrée, oui. La force du mental.
Oui.
Si on mesurait la force du mental de cet athlète-là, ça doit être impressionnant. Pas comment ça se calcule. Ça se calcule en genre de je sais pas moi, je sais pas comment tu calculerais ça.
Il y en a
ça.
Sûrement peu comme lui.
Ah, c'est incroyable.
T'sais, alors, il se démarque et c'est pour ça qu'il fascine tellement de gens à le voir gagner. Quelqu'un me disait plus tôt aujourd'hui, Rock, la compagnie Nike, pour ne pas la nommer, tous les vêtements de Tiger, les bâtons, tout ce qu'il y avait au cours du week-end est tout vendu. Tout est sold out partout en Amérique. Alors, c'est comme s'il y a un engouement et chacun voudrait avoir un petit morceau de Tiger.
Penses-tu que je jouerais mieux si je prenais de la Bridgestone?
Bien, c'est peut-être à considérer, Rock.
Il
faudrait voir. Mais
t'as raison, tout le monde veut avoir le petit morceau de succès.
Oui, oui, et s'en inspirer.
C'est ça.
Et je pense que c'est ça qui reste au cours du dernier week-end, c'est que ça laisse aux gens de l'espoir.
Le mot que je cherchais, c'est sérotonine? Ça se peut-tu?
Alors, tu parles de les endorphines.
Les endorphines,
ça se peut... L'hormone de plaisir, oui, c'est ça.
Ça
oui.
se peut-tu que lui oui. soit doté? Parce que, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai pensé à toi dimanche.
Ah oui?
Ben, non seulement je regardais du golf, oui. je sais ton amour pour le golf. Oui. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça pour tout. C'est que j'ai vu Tiger
oui.
sourire.
N'est-ce pas?
J'ai vu Tiger sourire.
Donc, là, avoir du plaisir.
On va remettre ça dans le contexte. Tiger, il n'est pas habitué de jouer à 9 h le matin le dimanche.
C'est vrai.
Tiger nous a dit à tout le monde qu'il s'est levé à 4 h moins quart, je ne sais pas
oui.
quelle heure.
3 h 45 le matin.
4 h moins quart le matin pour aller au gym
oui.
pour préparer sa ronde.
Oui.
Il est dans une situation qu'il joue à 3, d'habitude il joue à 2.
Oui.
On n'est pas dans zone de confort. Il joue probablement la game de sa vie,
oui.
dans le sens que, écoute, il est si près. Il est deuxième. Il se fait pousser dans le dos. Il n'est pas dans un peloton tout seul. Là. Non, il y a du monde qui le pousse dans le dos.
Exact.
Il joue avant lui.
Oui.
Avant lui, des conditions meilleures sur le terrain parce
oui.
qu'il évite la pluie.
Oui.
En temps normal, il aurait été bougonneux. L'ancien Tiger, on l'aurait vu, oui. en tout cas, bougonner.
Oui.
Ben non. Il souriait, puis ça m'a tellement fait penser à toi, qu'il a dû être dans un mindset, je vais prendre l'expression anglophone,
oui.
mm-hmm. il a dû être tellement dans un mindset, un bon mindset pour gagner ce game-là.
Et il l'a même dit plus tôt, hein, non seulement il va au gym pour se réchauffer, parce que son corps est très, très hypothéqué, mais il prend du temps aussi pour se placer dans un état d'esprit pour aller jouer cette ronde-là.
Mm-hmm.
Alors, il y a une préparation psychologique.
Mm-hmm.
Alors, c'est ce que je disais tantôt, il était dans sa bulle.
Mm-hmm.
Et dans sa bulle, je pense qu'il avait beaucoup de plaisir à être là. Tiger Woods, Rock, c'est un compétiteur. Hein? Alors, le Tigre, il l'a sorti dimanche dernier.
Oui, tout à fait, dimanche dernier. Et honnêtement, c'était un moment émouvant quand Patrick Reed remettait le veston vert emblématique du Masters. C'est vraiment le veston que tout le monde voudrait porter. C'est le 87 au hockey, c'est le 99 au hockey. On va écouter un bref moment quand Patrick Reed lui remet le veston vert.
Yeah, buddy.
Congratulations, Tiger.
Thank you.
So happy for
Thank you.
Thank you
so much.
Thank you very much.
Thank you. It fits.
It fits well.
Quoi dire de plus?
Voilà. Quelle musique enivrante aussi, hein? Ça nous donne le goût de jouer, Michel?
Entendre, oui, absolument,
entendre
oui.
ça.
Oui.
Puis je te disais que je regardais les gars frapper. Là. Je pense que je vais changer mon swing. Il y a des choses à apprendre. Hein? Le mimétisme pourrait porter fruit aujourd'hui en regardant ces gars-là frapper. Merci beaucoup.
Super bonne chronique. Semaine.
Merci, Michel. Bonne semaine. Hey, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre. Solide comme le rock. OK, bye.